6 à Paris, à Marseille, une heure de moins en temps universel. Dans une vingtaine de minutes, ce sera le débat sur RFI, mais en attendant tout de suite, cet accent d'Europe avec Juliette Garbrandt.
Radio G. 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Mercredi, jour des enfants. Bonsoir Sidonie, bonsoir Julia.
Bonsoir Pierre Benoît.
Vous allez bien ?
Super.
Comment s'occupe un mercredi chez vous ?
Oh bah, comme les autres jours, j'ai la chance de pas encore avoir d'enfants, contrairement à un certain PB Leclerc. Donc pas besoin de m'occuper quand ils reviennent de l'école.
Sidonie ?
Bah, on vire aux activités habituelles pour se détendre tranquillement.
Et à 18h10, bien évidemment, vous écoutez Topette, vous participez même à cette émission, puisque vous êtes là pour... Julien, je sais pas pourquoi il est là. En tout cas, toi,
pas
Sidonie, tu vas pouvoir nous parler de premier sujet, la première invitée qui sera avec toi dans quelques instants, en mode responsable, il me semble.
Tout à fait, avec Lucille.
Ok, ça c'est du teasing avec très très peu d'éléments.
Avec Lucille.
Avec Lucille, bah, dans quelques minutes pour en savoir un tout petit peu plus. En deuxième partie d'émission, Sidonie, tu seras toujours là. Et on sera avec Aurore pour parler de la commission de la valorisation du patrimoine angevin de la JCEA. Do you know what the JCEA is, Julian?
I don't know what the JCEA is, but you're gonna tell me.
C'est une autre forme de teasing, d'annonce. Voilà, okay. C'est vraiment pour tenir les auditeurs et auditrices en haleine.
Ça marche, je pense.
On aura aussi Choupi Matoudi, un petit peu de musique. Et puis, bah voilà, Topette, c'est parti pour...
Ah oui,
il n'y a pas de connivence avec mon équipe.
Pour ce soir.
Ah oui,
pas ce soir.
C'est ce que je dis souvent.
Et bah, c'est parti pour Topette.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et on commence avec la Madeleine du Graal et ce soir on s'intéresse aux Pokémon.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
C'est la Madeleine du Graal.
Daron, daronne, bienvenue dans la Madeleine du Graal. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène qui a transformé nos cours de récré en véritable salle de marché boursier. La carte Pokémon. Qui parmi vous n'a jamais ressenti cette fièvre, cette adrénaline en ouvrant un paquet de cartes Pokémon? Ce frisson en découvrant un Évoli brillant ou, Saint Graal, un Dracaufeu de première édition?
Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
Moi j'étais prêt à échanger mon goûter de la semaine pour une carte rare. Ces petits rectangles cartonnés ont débarqué en France vers 1999, dans le sillage du jeu vidéo et de la série animée. Imaginez, au Japon, tout a commencé en 1996 avec un certain Satoshi Tajiri qui, passionné par la collection d'insectes de son enfance, invente un univers où des créatures fantastiques se capturent et se collectionnent. De là naît le jeu de cartes à collectionner, créé par Wizard of the Coast, la même société qui nous avait déjà rendu accro avec Magic the Gathering. Oh, ce bruit! Ah, vous l'entendez? L'ouverture d'un paquet neuf. Quel moment sacré! Et cette odeur d'encre fraîche, presque aussi entêtante que celle des autocollants Panini. À l'époque, c'était la guerre dans les cours d'école. On négociait comme des traders de Wall Street. Et les règles du jeu? Eh bien, franchement, on les connaissait pas vraiment. L'important, c'était d'avoir LA carte que personne n'avait. Souvenez-vous aussi des interdictions dans les écoles. Les cartes Pokémon, c'était la contrebande de l'époque, confisquée par les instits qui n'en pouvaient plus des disputes à la récré. Et ses parents désespérés devant nos collections qui engloutissaient notre argent de poche. Mais enfin, c'est juste du papier. Et aujourd'hui, eh bien figurez-vous que cette folie passagère n'a jamais vraiment disparu. les cartes Pokémon sont devenues un véritable investissement. La fameuse Dracaufeu, première édition, est bien vendue aux enchères pour plus de 300 000 $ en 2020. Qui aurait cru que nos trésors d'enfance deviendraient de véritables actifs financiers ? Une véritable génération de collectionneurs a pris le relais, avec des youtubeurs qui déballent des boosters vintage en direct devant des millions de spectateurs. Les enfants des années 90 sont devenus des adultes nostalgiques, prêts à dépenser des fortunes pour retrouver la carte qui leur avait échappé. Et le plus beau dans tout ça ? Eh bien, c'est que les enfants d'aujourd'hui continuent de s'arracher ces cartes, exactement comme nous à l'époque. Même combat générationnel, même dispute à l'incri. Une passion intergénérationnelle, comme quoi attraper des créatures imaginaires dans des petits rectangles de carton, ça ne se débotte pas. Alors, chers auditeurs, si vous avez encore vos vieilles cartes Pokémon greniées chez vos parents, c'est peut-être le moment d'aller fouiller dans les cartons. Qui sait ? Votre retraite s'y cache peut-être.
Dans les cours de récré, c'était la folie. Pokémon débarque avec ses amis. 1999 en France, on se dit, ces petites cartes valent plus que leur prix. Pokémon carte de notre enfance, trading comme à Wall Street en danse. Du Japon jusqu'en France, l'engouement. Ces rectangles cartonnés nous rendent dingues vraiment.
C'était la Madeleine du Graal, à bientôt pour un nouveau voyage dans vos souvenirs.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
La Madeleine du Graal que vous pouvez retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, radio-g.fr. Avant d'accueillir notre premier invité de la soirée, je vous rappelle les JNP, la JNP Journée Nationale Prison proposée par le groupe Angevin de Concertation Prison. Alors la date du 15 novembre est passée, mais il reste celle du 25 novembre avec une soirée théâtre et débat à la Maison pour tous de Montplaisir pour dialoguer sur la culture en détention et la réinsertion, mais aussi la troisième édition du Forum des médecines de l'âme, les 28, 29 et 30 novembre à Mauges-sur-Loire, au programme des conférences, des ateliers et même des rencontres pour éveiller autour de la spiritualité de son âme. L'entrée, c'est libre, mais on vous conseille de vous inscrire. Les informations sont à retrouver sur forum-âme.com. On retrouve maintenant notre premier invité de la soirée.
Oui, Pierre Benoît. Aujourd'hui, on accueille une invitée dont le travail résonne très fort avec l'actualité. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors que la marque d'ultra fashion Shein ouvre une boutique à Angers, la ville s'apprête aussi à vivre la deuxième édition du festival en mode responsable. Un festival qui se déroule du 19 novembre au 23 novembre, en lien avec la semaine européenne de la réduction des déchets, et qui porte cette année un thème puissant, connexion. Pour nous en parler, on reçoit Lucille Bourguignon, présidente et fondatrice de l'association L'Âme du Fil, qui co-organise cet événement engagé, créatif et ouvert à tous. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le festival en mode responsable, comment il est né et quelle vision vous vouliez porter dès le départ ?
Donc il est né il y a 2 ans, quelques mois après avoir fondé l'association, puisque c'était déjà un projet que j'avais à cœur depuis quelques années. Le but étant de rassembler les solutionneurs, les acteurs engagés sur le territoire, puisque du coup on regorge de solutions, mais en fait on se rend compte que le public parfois ne sait pas où s'adresser et où aller. Et là c'est l'idée de rassembler en fait.
À la première édition, on a pu voir un tissu local engagé, prêt à bouger les lignes. Qu'est-ce que vous avez envie d'approfondir pour cette deuxième édition ?
Approfondir, je dirais que ce serait d'élargir la vision en fait. Une mode éco-responsable, c'est intégrer le cycle de vie d'un produit, de la matière première à sa fin de vie. Et pour ça, c'est rajouter une vision interdisciplinaire. C'est-à-dire que là, on ajoute la santé, le cerveau, comment il fonctionne, la relation à l'argent, pour en fait déconstruire nos pensées, nos habitudes, pour mieux choisir après en conscience.
Bien sûr, on va aussi devoir parler d'un sujet que tout le monde parle en ce moment, l'ouverture de la boutique Chine à Angers, qui tombe en simultané avec votre festival. Est-ce que vous le vivez comme une coïncidence malheureuse, comme une opportunité pédagogique ou comme une piqûre de rappel sur les enjeux que vous portez ?
Si je pouvais ne pas choisir, ça serait bien, dans le sens où c'est un peu détroit. Premièrement, on a été déçus, pour certaines dégoûtés. Après, effectivement, pas de hasard, la date d'ouverture était avant quelques jours avant le festival. Donc là, maintenant, elle est inconnue, elle est plutôt début décembre. Mais on s'est dit, en fait, on est là, il n'y a pas de... D'autant plus, on est encore plus motivés, puisque c'est le moment d'évoquer les désastres de l'industrie textile. Et donc, on le prend comme un boost pour se dire qu'on a notre place pour parler, en fait, tous ensemble et démontrer qu'on a des solutions autres.
Et quand une marque comme Shein arrive, on se rend compte que beaucoup de gens ne mesurent pas pleinement les impacts de la fast fashion. Selon vous, qu'est-ce qui manque encore dans la compréhension du grand public ?
C'est une bonne question. Encore une fois, très 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 large, puisque chacun a son biais d'entrée. Souvent, on parle de l'impact environnemental et on oublie l'impact social. Les personnes qui travaillent à l'autre bout de la chaîne, que ce soit à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'Europe, effectivement, même en Italie, par des personnes sans papier, forcées de travailler. Ça, c'est une réalité. Donc ça, on l'oublie, l'impact social, mais l'impact sanitaire aussi. Toutes les allergies, les perturbateurs endocriniens qui ont des causes, en fait, et des conséquences vraiment sur notre santé.
Et maintenant, parlons du festival, en mode responsable et de ce que les gens vont vivre sur place. Cette année, il y a des ateliers pratiques, des tables rondes, un défilé performance, une exposition, une collecte, un troc de vêtements, une cartographie collaborative et même des immersions sensorielles. Ça fait beaucoup. Et quel est le fil rouge, le lien sensible entre toutes ces propositions et ce que vous voulez surtout transmettre à travers ces activités ?
Le fil rouge, c'est la connexion. En fait, à la fois, on peut informer, partager, proposer et créer des synergies entre les acteurs, que ce soit les producteurs, les marques, les décideurs politiques, mais aussi avec les consommateurs et simplement avec le citoyen. Donc, le fil rouge, c'est se dire que le fil nous connecte, nous relie les uns les autres et sous toute forme.
Et cet événement repose aussi sur trois piliers très forts, reliés, transformés et reconnectés. Comment vous allez les mettre en avant pendant ces 5 jours ?
Reliés par le partage de savoir. Les tables rondes, lorsqu'on a différents acteurs qui ont leur casquette, leur point de vue différent de par leur métier ou qui sont des maillons précis dans la chaîne du textile. La reconnexion, à la fois reconnexion à soi, au vivant, à la nature, mais ça c'est à travers les expériences sensorielles par exemple, à travers en fait le geste de coudre. Lorsqu'on participe à une œuvre collective, en fait on suit le geste précédent le sien, donc déjà on est reconnecté à un point de broderie précédent. Oui, je dirais que déjà...
Et du coup, vous l'avez évoqué, il y a une partie du festival qui invite à se reconnecter au vivant, au collectif, mais aussi à son propre corps. En insistant sur l'éducation populaire, l'apprentissage par le sens et par le vécu, comment la mode peut devenir un outil de reconnexion plutôt qu'un simple produit qu'on accumulerait ?
Comment elle peut devenir un outil de reconnexion ? Lorsqu'on prend soin déjà de choisir, de entretenir, de réparer, et quand on choisit un vêtement en conscience qui nous va à soi, pas en lien avec le diktat de telle société ou telle culture qui nous dit comment nous habiller. Et en se rappelant que derrière chaque geste qui ont permis le vêtement, la fabrication, il y a un humain. Donc on est forcément relié aux autres.
Et il y a peut-être un événement, un petit événement coup de cœur parmi toutes ces activités, car vous mettez en lumière les artisans, les créateurs locaux et les ressourceries. Pourquoi déjà c'est essentiel aujourd'hui de se rendre compte de ces acteurs, de rendre ces acteurs visibles? Et comment allez-vous le faire du coup avec cet événement qui est un petit défilé assez intéressant?
Effectivement, ouais, c'est notre temps fort, le défilé de mode performance. C'est le fil, c'est le fil qui raconte de lui-même son histoire, l'âme d'un fil, comment il est né. Et d'autant plus dans un musée Jean Lursa, on peut imaginer qu'à un moment donné, l'apocalypse puisse arriver et se dire là, c'est un drame. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie textile? Et là, comment on peut mettre en valeur tous ces acteurs et justement revaloriser la réutilisation, se rendre compte qu'en fait avec des pépites dans les chinées dans les boutiques, et ben on peut en fait faire des merveilles avec. Et c'est l'idée de mettre à la fois l'humain, les mannequins qui défilent sont bénévoles, toute taille, toute morphologie, sont hyper enjoués d'être là, n'ont parfois jamais défilé, et c'est aussi une idée de les mettre en valeur, de mettre l'humain en valeur et en lien avec tous ces partenaires qui nous font confiance et qui sont là en fait pour montrer qu'on a des solutions sur le territoire.
Un bel événement en perspective. Mmh. Et du coup, vous parlez de chiner dans certaines boutiques, mais pour vous, quelles sont les solutions les plus accessibles dès aujourd'hui, celles qu'on peut commencer à mettre en place sans tout révolutionner non plus du jour au lendemain?
Le vêtement le plus écologique est celui qu'on a déjà dans notre placard. Mmh. Donc, prendre le temps de regarder, de se poser la question, quelle est l'histoire de ce vêtement qu'on a oublié au fin fond? Et en fait, est-ce qu'on peut l'adapter, le mettre avec un vêtement qu'on n'aurait jamais pensé pour en faire des nouvelles tenues et effectivement reprendre contact avec ce qu'on a déjà autour de soi?
Ça serait du coup l'objectif final. Et si on se projette un peu, à quoi ressemblerait, selon vous, un territoire vraiment en mode responsable? Qu'est-ce qui changerait dans nos vies quotidiennes? Qu'est-ce qui serait amélioré?
Pourquoi acheter plus quand on a déjà tellement? Ce serait déjà de se poser la question. Et ensuite, dans nos réflexes, effectivement, c'est d'acheter quelque chose qu'on va porter, en fait, qui fait sens pour nous. Après, j'entends, enfin, moi, je dirais, c'est se poser déjà des questions et puis après avoir moins de préjugés sur la seconde main, par exemple, et en fait, oser aller dans le magasin quand on n'a jamais fait et se rendre compte que parfois même on a des vêtements qui sont neufs, qui n'ont jamais été portés et qui sont là et qui ont besoin d'une deuxième vie. Oser.
Pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir et qui hésiteraient encore, avez-vous un dernier mot pour les faire venir au festival?
Une mode responsable, elle est vivante. Elle est circulaire, elle est enjouée. Donc en fait, on est là pour passer des bons moments ensemble. On est là pour partager, pour rigoler à travers la couture, mais à travers un brunch, à travers un défilé, des tables rondes. On est là dans l'idée d'échanger et d'inspirer.
Et malheureusement, on va devoir écourter cette interview parce que Lucille doit littéralement filer pour retourner à l'événement qui vient de commencer aujourd'hui. Donc merci beaucoup Lucille pour cet échange et on vous souhaite une très belle édition.
Merci à vous.
On rappelle que le festival en mode responsable a déjà commencé et qu'il continue jusqu'à dimanche à Angers et au Pont de Cé. Il est gratuit ou à prix libre pour tous les publics.
Merci beaucoup Sidonie. On part en musique maintenant. Julien, qu'est-ce que tu nous proposes?
Je vous propose un Golden, une chanson de K-pop Demon Hunters. C'est parti.
C'est parti, merci beaucoup parce qu'il est très peu présent ce soir, mais en tout cas c'est lui qui nous animera les pauses musicales.
I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be.
I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid.
Could that be your stage? wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, up, up with our voices. Going together so often, gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, I would say no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, born to be glowing. Like every nanonori, you know that it's our time. No fears, no lies, that's who we're born to be.
Merci Julien pour cette belle proposition musicale sur le 101.5 FM. Et on va pouvoir maintenant répondre à ta question sur ce qu'est la JCEA, puisqu'on accueille désormais Aurore.
Topette avec Pierre Benoît.
Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Aurore Gagnard, tu es membre de la JCEA, la Jeune Chambre Économique Angevine.
D'Angers, sa région.
D'Angers et sa région. La JCEA est de sa région,
oui,
et de SR. Voilà. Tu es plus précisément directrice de la commission de la valorisation du patrimoine angevin. Et on sait qu'on a un beau patrimoine ici à Angers et dans le département. Donc ça tombe bien, tu dois avoir beaucoup de travail. Et justement, il y a un travail qui a été mené sur l'année qui vient de s'écouler quasiment autour de la coiffe angevine. Voilà, un patrimoine un peu immatériel, peut-être, enfin matériel aussi, mais qu'on ne visualise pas. C'est pas un château, c'est pas un bâtiment, c'est des choses qui ont existé, qu'on peut d'ailleurs apercevoir si vous êtes dans le secteur des Ponts-de-Cé, il y a un musée de la coiffe. Peut-être que tu vas pouvoir nous en parler, puisque justement pendant un an, vous avez travaillé au travers de cette commission avec les autres membres à proposer des choses, à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en avant ce patrimoine. Et bah, on arrive à cette conclusion avec cette proposition du 29 novembre à 14h précisément, c'est toi qui m'as donné les informations, un jeu de pistes urbain à Angers. On va pouvoir un petit peu découvrir ce patrimoine, se balader dans la ville. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu, mais pas tout. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de surprises aussi. Avant de parler de ce temps fort, on va peut-être redonner un petit peu de contexte sur ce qu'est la JCEA, parce que je pense pas que Sidonie connaisse, par exemple. Alors, d'un mot très simple, à quoi sert cette association? C'est une association,
oui,
Aurore.
Tout à fait. Alors, tu l'as très bien dit, effectivement. Alors, la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région, donc c'est une antenne, on va dire, locale, parce qu'on est sur une association qui a une dimension plutôt même internationale. Et elle est implantée un peu partout en France. Donc la plus grosse locale se situe à Angers. Cocorico, voilà.
Cocorico, Angers, Roi, ouais. René Ito.
En tout cas, nous avons à peu près une 70 membres qui sont engagés et qui souhaitent développer des actions. Mener des actions, c'est sur un an. On travaille en mode projet. Et l'idée derrière ces actions, c'est vraiment qu'elles soient toutes impactantes pour le territoire. Donc on va aller sonder, faire des enquêtes, aller rencontrer des personnes, souvent des acteurs locaux clés, des collectivités, ça peut être aussi des entreprises, des particuliers, voilà. Donc il y a toute cette phase d'enquête qui est menée en amont. Et ensuite, on va aller finalement se focaliser sur une action très précise, parce que bon, encore une fois, on n'a qu'un an pour travailler dessus, et on va dérouler derrière tout un planning. Et donc là, on a effectivement notre jour J qui est arrêté. C'est ce qu'on appelle donc notre jour J, c'est l'action menée le samedi prochain, du coup.
Pour la commission patrimoine.
Absolument.
Valorisation du patrimoine.
Et là, nous, on s'est effectivement bien focalisé sur le patrimoine et plus spécifiquement sur la coiffe angevine qui dort sagement derrière les vitrines du musée des Ponts-de-Cé, comme tu l'as dit.
On va en parler, on laisse encore un tout petit peu de suspense. Je reste sur la JCEA, si tu le veux bien, Aurore, avec ce J et ce E qui m'interpellent, jeune. Alors pourquoi jeune? Et le côté E, donc économie, qu'est-ce que ça signifie? Parce que spontanément, moi je pense que Sidonie également, on pense à entreprise. Toi tu penses à quoi quand on dit économie?
Bah économie, oui, entreprise, chiffres, tout ça.
Et est-ce que c'est juste, du coup, jeune chambre économique, vas-y, explique-moi.
Oui, j'entends, effectivement, oui. C'est vrai que j'ai tendance à squeezer cette partie parce que maintenant je suis un peu habituée. Mais il faut rappeler que jeune chambre économique, des fois, peut être, pour certains, assimilée à la CCI ou en tout cas une chambre consulaire, ce qui n'est pas le cas. On est sur une association. Et elle a pour vocation, donc, enfin, quand on parle de jeunes, on accueille des jeunes citoyens âgés jusqu'à 40 ans maximum. Et qui souhaitent donc s'engager concrètement sur des actions à mener sur donc le territoire. Et ces actions doivent répondre, et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, à l'un des objectifs de développement durable établi par l'ONU.
Donc il faut que ce soit un développement qui dure dans le temps.
Absolument, parce que derrière, l'idée c'est de pouvoir transmettre les actions que l'on va commencer à créer ensemble avec les différents acteurs, et les faire grandir, et surtout les faire perdurer dans le temps.
Et c'est ça la dimension économique, en fait, c'est dans le sens premier de la définition de ce que c'est une économie, c'est en fait c'est l'environnement dans lequel évoluent les individus et la société avec,
oui,
bah, que ce soit le tissu associatif, entrepreneurial.
Voilà, pas dans le sens pécunier finalement, exactement. C'est bien ça, c'est bien dans le sens l'écosystème qui tourne autour de l'économie, du territoire, voilà. Et donc ça inclut plusieurs acteurs comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, les collectivités, les entreprises, les associations, les habitants, les citoyens, enfin voilà, tout le monde.
Très clair pour moi en tout cas, je sais pas toi si Denis, si t'as mieux compris.
Si, là vraiment beaucoup plus clair, merci.
Et ben on va pouvoir parler du coup de la coiffe angevine. Donc il y a eu ce projet, toi tu es avec la commission, j'allais dire voirie, valorisation patrimoine angevin. Vous êtes combien, c'est quoi la task force de cette commission?
Alors nous sommes en tout 6 membres actifs. Alors quand je dis actifs, c'est important parce qu'on est vraiment sur des personnes qui vont s'engager, donner de leur temps pour venir bosser sur ces actions.
Et vu le travail que tu nous présentais tout à l'heure, oui, ça demande du temps.
Tout à fait, sachant qu'encore une fois, on n'a que quelques mois finalement pour faire sortir quelque chose. Et là, on est en phase, on approche de notre jour J et l'idée derrière, c'est de finir notre action avec un livrable à transmettre auprès d'une collectivité. Et là, c'est dans l'idée qu'on en a, en tout cas, avant la fin de l'année.
Alors, pourquoi la coiffe angevine ?
Alors, c'est une excellente question. Comme je l'ai un petit peu évoqué, on a fait toute cette phase d'action au préalable. On a rencontré différentes personnes. Et à travers nos discussions, avec notamment, là, je pense à la mission Val-de-Loire, qui a été un peu un pilier pour nous au tout démarrage. Je pense aussi au Repère Urbain, je pense à Angers-Loire Métropole et aussi d'autres associations dans la Doutre, par exemple. On est parti sur le patrimoine plutôt immatériel. Et après, nous avons rencontré une personne au musée de la coiffe, au Pont de Cé, un passionné. Et du coup passionnant à écouter, et qui nous a démontré qu'il y avait vraiment un besoin pour les personnes de faire venir du monde, des visiteurs, même au plus près finalement, beaucoup d'Angevins ne connaissent pas ce musée. Beaucoup de jeunes boudent aussi un petit peu ce patrimoine, ne le connaissent pas. Et derrière même, les métiers, les savoir-faire ont tendance à disparaître. Donc voilà tout l'intérêt de le mettre un peu en lumière et de le faire sortir de derrière les vitrines.
Et tout de suite, un exemple très concret. La coiffe angevine, Sidonie, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une coiffe, par exemple? Je dis pas que je sais, hein, je te pose la question, mais...
Comme ça, une coiffe, ça serait pas une perruque, une...
Alors c'est bien sur la tête, effectivement. Oui. Alors une coiffe, non, c'est plutôt quelque chose qui vient coiffer la tête à la place. Enfin, c'est ce qui a finalement été remplacé ensuite par les chapeaux. Cette coiffe avait beaucoup de signification en termes de statut social, de métier et aussi de moments de vie. La coiffe de mariage, la coiffe de deuil sont différenciables l'une de l'autre. Et il y a un côté très aussi local. La coiffe de Beaupro n'était pas la même que celle des Ponce, voilà. Donc il y a tout un panel de coiffes avec des spécificités.
Est-ce que c'est juste de visualiser ce qu'on voit sur les cartes postales de Bretagne avec les trois mamies alignées et puis des choses sur la tête, c'est ça une coiffe?
Les fameuses bigoudaines, oui, effectivement. Et c'est vrai que la Bretagne a beaucoup capitalisé sur ce patrimoine, et ce qui n'est pas le cas en région angevine.
Donc c'est un élément vestimentaire féminin essentiellement?
Tout à fait. Alors, il peut y avoir des coiffes, mais plutôt de travail pour certains métiers type charpentier ou autre. Mais c'est très féminin, effectivement, comme habit, comme apparat. Voilà.
Pour caricaturer, je ne sais pas si on fait un parallèle avec les temps modernes, c'est comme si on avait une Charlotte dans un fast-food et puis qu'en fait, on continue à la porter en dehors pour marquer notre appartenance à ce rang social, à cette activité,
oui,
en fait.
Oui, c'est un peu ça, oui.
C'est pas aussi valorisant que ça, hein, mais c'est parce que c'est beaucoup plus élaboré, les coiffes en Angevine notamment. Alors pour les découvrir, ce temps fort, 29 novembre à 14h, jeu de piste urbain. Qu'est-ce qu'on va y faire? Comment ça va marcher? Et qui peut participer à ce jeu de piste?
Alors pour le coup, tout le monde peut y participer, c'est ça qui est assez génial. Des familles, des étudiants, des personnes qui sont juste curieuses de découvrir ce patrimoine. Et ce jeu de piste, il se passera sur à peu près 2 à 3 heures de temps. Ça dépend, là il n'y a pas de timing, les personnes sont très libres dans la visite et dans la résolution des énigmes, parce qu'il y a pas mal d'énigmes à résoudre. Et l'idée, c'est que les personnes vont partir avec une besace, avec un certain nombre de coffres, de livres, de feuilles en tout cas, et de choses à résoudre. Et c'est en mode itinérance très libre.
Il n'y a pas de concurrence entre les participants et participantes?
Non, ça c'est pas prévu. Là on est vraiment sur une activité ludique sans pression.
Plutôt familial peut-être, entre amis, entre...
Tout à fait, là ouvert à tous. Mais après ceux qui veulent se mettre un petit challenge, on peut effectivement chronométrer les différentes arrivées et voir qui sont les meilleurs.
Bon, j'ai bien compris qu'on pourra pas avoir plus d'informations tant qu'on n'y aura pas participé pour découvrir et se laisser surprendre. Par contre, on a peut-être des endroits où on peut déjà s'inscrire, découvrir un peu le programme, le dérouler et puis où se retrouver.
Alors, tout à fait. Alors là, c'est les prémices de la communication. Enfin, tout simplement, le plus simple, c'est de nous suivre, en tout cas, suivre le compte de la Jeune Chambre économique d'Angers sa région sur les réseaux sociaux. Alors que ça soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et bien surveiller, puisqu'il y aura un lien d'inscription, qui sera directement mis, en ligne. Donc les places seront assez restreintes. Donc, n'hésitez pas surtout à y aller, même pour, par curiosité.
Mais en tout cas, ça donne envie. En plus, il fera pas forcément froid encore le 29 novembre. Peut-être qu'il peut y avoir du soleil, un petit soleil automnal.
En ce moment, en tout cas, la météo est plutôt clémente.
Bon, on l'espère en tout cas pour ce 29 novembre. Avant de se quitter, quand même, Aurore, d'un tout petit mot sur ton implication à toi dans cette jeune chambre économique angevine. T'as une activité professionnelle par ailleurs. Quand on travaille, on a aussi une vie de famille certainement à la maison. Pourquoi donner de son temps comme ça pour sa région, en fait, pour faire vivre ce qui existe sur le territoire, le mettre en lumière?
Alors, personnellement, en tout cas, là, je parle vraiment dans mon cas de figure. Moi, ce que j'ai recherché, c'est vraiment le côté action, de pouvoir mettre des choses en place concrètes, tout simplement participer pour le bien collectif et faire perdurer des choses. Enfin, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi et c'est la valeur vraiment du collectif, c'est ça qui me tenait très à cœur.
Bon, eh ben merci pour ce témoignage et cette explication, ce teasing aussi du jeu de piste. Si Denis, ça t'a donné envie le jeu de piste?
Oui, ça donne envie d'apprendre avec plaisir. C'est toujours plaisant de faire ce genre de choses.
Et c'est dommage qu'on soit obligé de porter un casque en radio, sinon on serait déjà avec des coiffes. Voilà. C'est un peu comme on pourrait garder nos casques dehors pour dire qu'on est animateur et animatrice radio. Merci beaucoup Aurore Gagnard d'être venue dans Topette ce soir, directrice de la commission valorisation du patrimoine angevin au sein de la JCEA, la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région.
Merci beaucoup.
Topette avec Pierre Benoît.
Allez, on continue, on va même conclure tout ça avec Choupi Matoudi, la chronique Féline de Topette.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade dans les rues d'Angers. À l'heure de notre chronique, les voitures avancent à touche-touche, prises dans la circulation de fin de journée. La nuit s'en vient, c'est une fin de journée de novembre. Le froid nous fait remonter notre col, resserrer l'écharpe qui ceint notre cou. Des grappes d'élèves se pressent dans les bus, élèves escargots avec leurs sacs de cours dignes d'une expédition pour l'Everest. Nous arrivons dans une rue piétonne. Les vélos serpents croisent des trottinettes fléchettes improbables qui pourtant slaloment entre les piétons, piétons oiseaux qui ébouriffent leur manteau de plumes pour avoir moins froid. Tout à coup, les lampadaires s'allument et notre regard croise celui d'un chat volant. Oui, c'est bien ça. Petites ailes sur le dos et silhouette légère et flottante, ce chat de papier nous offre son sourire de joconde, là, sur ce mur croisé par hasard. Ce chat est comme nous, mi-chat, mi-autre, et ses couleurs aussi pétillantes que douces nous invitent à le regarder plus longtemps. Qui est-il? D'où vient-il? Pour tenter de trouver la clé de ce mystère chimérique, j'accueille aujourd'hui July Bubble. Bonjour July, comment ça va?
Bonjour Lucie.
Alors on dit July, bien. Julie, on dit quoi?
Bon, on dit July pour le style.
Alors, tu es street artiste. C'est toi la créatrice des chats volants qui peuplent les murs et autres supports urbains de la ville d'Angers, entre autres. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de ce chat volant? Comment il est né? Comment il est... Oui, comment il a apparu?
Bien sûr, j'ai un petit chat chez moi. Mais c'est pas lui directement qui m'a fait commencer ce travail de dessin. C'est ma fille qui avait 5 ans alors, avec laquelle je dessinais suite au visionnage d'un animé qui s'appelait Chi, donc avec une petite chatte blanche à qui il arrive plein de choses. Elle voulait dessiner des chats à la suite de ce visionnage. Et donc, on s'est attablés toutes les deux tranquillement. Et moi, bêtement, je sais pas, mais je me suis bornée à dessiner des chats très réalistes. Voilà, dans des positions de chats. Puis bon, je suis pas très douée en dessin réaliste, donc c'était pas terrible. Et elle, à 5 ans, imagination foisonnante, elle a fait toutes sortes de choses, dont un avec des ailes. Alors, il ressemblait pas à celui que je dessine maintenant, mais sur le moment, j'ai fait « Mais pourquoi est-ce que je m'embête ?» J'ai qu'à aussi imaginer des trucs, et avec des ailes, c'est génial. Donc, j'en ai dessiné un, puis deux, puis trois. Je lui ai dessiné pour d'autres occasions, son anniversaire, plein de choses. Et à force de le dessiner, il a pris cette forme un peu de banane, là, avec ses ailes et ses grands yeux. Et puis, comme j'étais à ce moment-là aussi à la recherche de quelque chose à dessiner dans la rue, à force de le dessiner, c'est devenu une évidence. Je me suis dit, bon, au moins avec ça, ça sera joyeux. Je teste avec ça.
c'est formidable parce que tous tes chats volants sont différents. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tout d'un coup une idée émerge? Comment est-ce que tu vas donner naissance à tel chat ou tel autre? Est-ce que c'est le lieu qui t'inspire quand tu le croises? Tu dis, tiens, là, je verrais bien quelque chose. Ou est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est l'actualité? C'est quoi exactement?
C'est un peu tout ça mélangé. C'est vrai qu'au fil du temps, mon œil s'est aiguisé à ce que je voyais dans la rue et aux endroits propices. Et du coup, effectivement, quand il y a des noms de rue ou même juste des choses que moi j'apprécie, des monuments ou des lieux de la ville, voilà, je lui fais prendre la forme, faire une petite référence. Parce que comme c'est un chat voyageur qui est un peu arrivé... Dans mon histoire, j'imagine qu'il est arrivé en migrant, comme les oiseaux, en fait, un chat migrateur. Et donc, il voyage, et il voyage dans les époques, mais aussi les espaces et les références. Donc, évidemment, c'est forcément des références qui me touchent, moi. Mais ça peut être parfois des personnes qui me disent « Ah, j'en verrai bien là » ou... Et voilà, ça me fait travailler.
Faut pas trop nous tenter là, j'ai des petites idées si tu veux.
Parfait, bah au contraire, avec plaisir.
Mais moi, ce qui m'intéresse, je trouve que ton processus, que tu as un processus créatif où ta créativité est joyeuse. Je sais pas, j'ai l'impression que ton chat, il est à la fois, enfin les chats volants, ils sont à la fois collés au réel parce qu'on a il y a des choses, tu abordes des thèmes aussi à travers ces créations comme l'environnement ou Octobre Rose ou des héros de BD, enfin il y a plein de choses, mais en même temps que cet imaginaire, il est marqué d'un truc qui va sublimer les réels, ça va transformer le réel en quelque chose aussi quelque chose de joyeux.
Oui, mais effectivement, j'ai voulu rester à toute la spontanéité que ma fille avait donnée au départ, en fait. C'est des choses gaies que je veux transmettre. Faire sourire les gens, pas qu'il y ait de messages revendicatifs ou je sais pas quoi, même si parfois je fais passer des messages effectivement écologiques ou impliqués dans certaines causes, mais... pas là pour faire des leçons de morale ou
non pas du tout, mais le spontané, c'est quelque chose aussi qui est important dans ta façon de créer. Est-ce que l'idée vient et que tu fais quelque chose sur le moment? Comment ça se passe?
Alors parfois oui, parce que sinon les idées s'en vont et on sait pas si elles vont revenir, donc des fois oui, je gribouille un truc et je le reprends peut-être plus tard. Pour celui que j'ai collé tout à l'heure, à côté de des studios justement.
Je t'invite à le chercher.
Je l'ai fait hier soir en vitesse quoi. Je me suis dit mais attends, j'y vais là-bas, j'y vais jamais. Il y a pas de collage là-bas. Je vais en faire un. Alors la base c'est une base qui existe déjà parce que j'ai fait une série avec beaucoup de cœur à coller en ce moment, mais je lui ai rajouté donc un casque et puis aux couleurs de Radio G et puis voilà, donc je l'ai fait hier soir très très rapidement et
il est trop mignon, franchement. Je vous invite à le chercher, super, je vous dis pas où il est mais trop bien. Là on est dans une chronique où on parle aussi des chats, de nos chats compagnons, des animaux compagnons. Toi tu as dit que tu avais un chat, il a quel âge, il s'appelle comment tu l'as comment vous avez vécu ensemble, comment vous êtes installés ensemble?
Il s'appelle Tahiti Bob. Bon, nous, on l'appelle Titi. Il a 13 ans, je pense. On n'est pas très sûr de sa date de naissance. C'est un chat libre qu'on a adopté à Saumur. Il est venu naître dans le jardin des parents de mon compagnon avec toute sa fratrie et puis sa maman qui était une chatte libre aussi. Mmh. Et puis, on s'est choisi, on va dire. Et puis, on l'a ramené à Angers. Il s'est habitué doucement à la vie en appartement, mais il était encore petit, donc mm-hmm. ça a été. Mm-hmm. Et puis, maintenant, il s'y plaît bien. Il n'a pas du tout l'intention de sortir.
Il suit un petit peu tes créations. Il te regarde quand tu dessines, quand tu peins.
Oui, c'est vrai que souvent, les chats, quand on fait quelque chose, ils viennent s'asseoir sur ce qu'on fait. Donc, il fait pareil. Des fois, il saute sur la table alors que je suis en train de dessiner. Donc, si c'est de la peinture, c'est un peu ennuyeux. Mais,
mais il participe. Hein, il laisse son empreinte. Écoute, July, on arrive à la fin de cette chronique. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais partager avec nous? Peut-être une actualité ou peut-être un petit message, quelque chose? Ou alors des derniers collages, où est-ce qu'on peut les retrouver à peu près dans la ville?
Alors, les derniers collages, c'est au passage rue des Poiliers, donc sur la thématique mm-hmm. Octobre Rose. Je ne suis pas seule sur ces collages, il y a vraiment pas mal d'artistes street art sur cette thématique. Mm-hmm. Et puis, en actualité, c'est une exposition qui aura lieu à partir du 3 décembre à la galerie Arts & Co, où c'est une exposition collective aussi. Et le thème, c'est âme d'enfant. Donc, mon petit chat va se promener dans tout ça et ça lui va bien comme thème.
On ira sans faute. Merci, July, et merci à vous.
Merci
à bientôt.
De m'avoir reçu.
À bientôt.
Allez Julien, fais-toi plaisir, c'est le moment de conclure cette émission en total impro.
On a été ravis d'accueillir nos invités du jour et de savoir maintenant ce qu'est la JCEA. Très bonne chronique de Choupi Matoudi. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, vous pourrez me retrouver sur France Télé dans un peu moins d'un an, dans la série Les Évaporés.
Ça n'a rien à voir. Il fait juste sa promo. Et tu sais, Sidonie, qu'il a un talent incroyable, Julien, en plus d'être beau. Il imite super bien.
Nicolas Sarkozy.
Je pensais pas à lui, mais essaye si tu veux.
Je viens de sortir de prison. Je suis très content. Je veux dire que je peux aller au restaurant avec Carla. N'est-ce pas, Carla?
Non.
Oui, Carla, je suis d'accord avec toi. On va aller manger maintenant, Fouquet's. Vous allez arrêter de me faire chier. Quelle indignité, monsieur Leclerc. Quelle indignité.
C'est pas mal, bravo en
bravo,
vrai.
Bravo.
Merci beaucoup.
Non, je pensais à Jean-Luc Reichmann.
Jean-Luc Reichmann? Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi Jean-Luc Reichmann.
Bienvenue dans les 12 Good Midi. Je suis avec Sidonie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sidonie?
Pas grand-chose.
Et vous, Pierre-Benoît, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
J'essaye de dormir tant bien que mal.
Très bien, il essaye de dormir alors qu'il a un enfant, un bébé de 3 ans. Merci Pierre-Benoît d'avoir été avec nous.
Merci Jean-Luc, on espère vous retrouver prochainement.
Une autre?
Non. Si t'as un autre personnage, mais rapidement.
J'ai Gollum.
Oh non. Bah quoi, moi je veux faire
Fossile.
Un autre alors.
Cendrillon.
Cendrillon. Pour ses 20 ans, elle est la plus jolie des mamans.
Ton prince charmant. C'est ta foutu le plan.
Vas-y, Sidonie.
J'ai pas mis le temps.
Téléphone.
Dans ce paillon d'argent.
Pour ses 30 ans.
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux. Et dans ses rêves, elle part.
as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment.